Moi, je suis particulièrement heureux d'accueillir Jean-Pierre Côté, parce que ça m'arrive quelquefois ici, dans cette librairie que j'affectionne particulièrement, d'accueillir des amis, comme vous savez, de par ma vie professionnelle qui m'a conduit sur beaucoup de chemins de traverse et m'a amené à rencontrer beaucoup de monde que je retrouve ici, souvent derrière un micro ici. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Côté, donc c'est un autre ami que je rencontre, donc ne soyez pas surpris une fois de plus si je tutoie mon invité. Et nous nous sommes croisés il y a très très longtemps à la télévision.
Pas très longtemps.
Non, pas très longtemps. Jean-Pierre dirigeait à l'époque France 3, puis a dirigé France 2, et puis a dirigé la 5. Et moi, pendant ce temps-là, j'essayais de pédaler pour essayer de construire une émission qui s'appelait La Marche du siècle pendant quelques années. Et puis après, grâce à Jean-Pierre, j'ai produit des émissions à la 5 qui s'appelait Cas d'école. Voilà, donc nos chemins se sont souvent croisés, nous sommes souvent rencontrés et nous sommes devenus amis. Donc je suis d'autant plus heureux d'accueillir Jean-Pierre Côté ce soir pour un premier exercice dans lequel il se livre, qui est l'écriture d'un livre. Jean-Pierre, tu me disais tout à l'heure, dans sa vie, il faut faire trois choses, c'est ça ? Trois rendez-vous.
La première, c'est faire un enfant, c'est plus urgent. La deuxième, c'est planter un arbre, j'en ai planté plusieurs. Et la troisième, c'est écrire un livre. Donc c'est le premier. J'ai alors plusieurs enfants, plusieurs arbres, les livres, pour le moment, j'en ai fait qu'un.
Je crois que vous avez dit racheter du vin de l'année, de la naissance de
l'enfant. Ah, ça aussi. Ça aussi.
J'ai une bouteille de l'année de ma naissance, je pense qu'elle est plus bonne.
Mais, et donc c'est le premier. Et donc, et le goût, l'envie d'écrire, tu l'avais depuis longtemps en toi, et pourquoi maintenant ?
Ben parce que j'ai le temps, parce que j'ai eu précédemment une vie extrêmement agitée, qui laissait relativement peu de temps et qui ne laissait pas la sérénité nécessaire à l'écriture. Il faut un livre, c'est un moment de schizophrénie, c'est un moment d'autisme. C'est écrire un livre, c'est s'enfermer autour de ses personnages. C'est ne vivre pendant quelques mois qu'avec son histoire et c'est être un peu en rupture avec son univers, perdre ses relations extérieures. Je m'émerveille de voir des gens comme Franz-Olivier Gisbert, que j'ai côtoyé toute cette année puisqu'on a fait une émission ensemble, des auteurs comme Franz qui sont capables à la fois de diriger un journal, de faire des conférences dans toute la France, de soutenir toutes sortes de relations politiques dans des dîners et en même temps d'écrire. Je ne sais pas faire ça. Ça m'est totalement impossible. Et non seulement d'écrire, mais d'écrire des livres très personnels. Pour faire un peu de publicité pour Gallimard et pour Franz, La cuisinière d'Himmler est un livre remarquable. Et donc je l'ai accompagné durant toute cette écriture. En même temps, j'écrivais le mien. Mais la différence, c'est que moi, je me suis isolé et que je suis resté pendant 4 mois à écrire parfois pendant 14 heures par jour, sans parler à personne et en me nourrissant d'ananas et de thé vert. Voilà. Et ça, c'est pas possible dans une vie normale. Et donc, je sais pas si j'aurai encore le temps, le loisir et le privilège de pouvoir recommencer.
Alors, il faut préciser que Jean-Pierre a toujours des activités dans l'audiovisuel, parce qu'aujourd'hui, il est producteur, s'il ne dirige plus de grandes chaînes de télévision, hein, ou le groupe audiovisuel Lagardère, qu'il a dirigé longtemps. Et aujourd'hui, il produit deux grandes émissions, L'ombre d'un doute, avec Franck Ferrand, qui est sur France 3.
Oui.
Et une autre émission, également sur France 3,
Le monde d'après.
Avec François-Olivier Gisbert, dont tu parlais un instant, Le monde d'après, qui est une émission mensuelle. Il y a un de tes personnages qui s'appelle Maxime Labrousse, qui ambitionne d'écrire et qui à un moment se dit « Oh ouais, si je raconte un suicide, le suicide d'un tel, etc., ça ne va pas être très passionnant, mais si jamais il y avait un meurtre, ça serait beaucoup
mieux. » Hein ?«
Ça serait tellement mieux. » Alors moi, je me dis, C'est pour ça que tu as écrit un thriller qui se passe dans le milieu de la télévision, parce que tu le connais bien, on y reviendra dans un instant, plutôt que des souvenirs sûrement tout aussi passionnants que de la vie que tu as menée dans l'audiovisuel.
Le premier contrat d'écriture qui m'a été proposé, le seul d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je dis le premier, c'était le seul, c'est le seuil qui pas le seuil, c'est Plomb qui m'avait proposé il y a quelques années d'écrire un livre sur un moment particulier qui était la prise de direction générale de la 2 lorsque je suis venu pour nettoyer l'affaire des animateurs producteurs qui avait défrayé la chronique, la fameuse affaire des patates, cher Jean-Pierre Alcabache. Et c'est vrai que à cette occasion, je savais déjà que c'était un monde violent, que c'était un monde. C'est un monde qui ne pardonnait pas grand-chose. Et j'ai découvert l'occasion de cette opération de remise en ordre d'une chaîne, la violence, la brutalité absolue de l'univers de la télévision. Et en sortant de là, les éditions Plomb m'ont proposé d'en faire un livre. Donc de raconter par le menu détail... les affaires qui concernaient à l'époque Arthur, Nagui, enfin vous vous souvenez de... Et ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne trouve pas d'intérêt à la fois ce type de souvenirs, qui sont même des souvenirs particulièrement noirs, mais aussi à raconter par le menu détail les moments de ma vie, les moments de... Alors il y a eu des moments agréables. J'ai eu la chance de travailler avec Samuel Beckett, avec Georges Semprun, avec Tadeusz Kantor, avec de grands intellectuels. Mais je vois pas l'intérêt de faire étalage. Je vois pas l'intérêt de faire étalage de sa vie privée. Je préfère. Alors, lorsqu'on écrit un roman, on va forcément chercher dans ses souvenirs la construction de tel personnage. Mais non, le roman, pas l'autobiographie.
Alors, le roman, ce sont des personnages. Et là, je dois dire qu'on a une galerie de personnages tout à fait extraordinaire. Alors, il y a évidemment le personnage qui est le personnage de titre, Buscaron, qui est le patron des programmes d'une chaîne. On ne sait pas très bien laquelle, d'ailleurs, si elle est privée ou publique, mais peu importe. De toute façon, elles ont tout autant de difficultés les unes que les autres, notamment financières. Donc, c'est pas un problème. Buscaron, qu'on retrouve un jour... mort au pied de son immeuble. Alors, a-t-il été assassiné? S'est-il suicidé? Et finalement, nous allons, tout au long du livre, essayer d'élucider cette histoire.
On peut avouer que assez rapidement qu'on comprend qu'il a été assassiné. Et on va découvrir enfin la partie investigation, ce sont les raisons pour lesquelles il a été assassiné.
Voilà. Et alors tout de suite dans la foulée de cette disparition, le président de la chaîne en question nomme l'une des collaboratrices du dit Buscaron à sa place à la direction des programmes. Et c'est là qu'on se rend compte finalement. De la cruauté, de la difficulté de ce monde. Parce qu'elle est immédiatement confrontée, d'abord, à la critique de son amant qui lui dit « Tu ne devrais pas y aller, tu vas te faire cabosser. » effectivement, tous les jours, à chaque instant, du matin au soir, elle est confrontée à une guerre interne.
Il faut comprendre que la télévision additionne toutes les perversités, tous les handicaps et toutes les choses sombres de l'âme humaine. Il y a à la fois des enjeux de pouvoir politique, pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Dans des grands groupes de plusieurs milliers de personnes, il y a toujours ce que j'appelle les batailles des samouraïs de moquette, des batailles sur qui prendra le pouvoir sur l'autre, etc. Mais la télévision s'est décuplée. Donc il y a le problème de pouvoir, politique, pouvoir de l'utilisation par l'institution politique de la télévision. Il y a la question de l'argent. Il y a des sommes d'argent extrêmement importantes, colossales, qui sont en jeu. Une émission sur plusieurs saisons peut mettre à l'abri une famille sur plusieurs générations. Et puis il y a des problèmes d'égo. Montrer sa tête à la télévision, pour certains, c'est irremplaçable. Enfin, je veux dire, et donc, lorsque vous mélangez comme ça, je disais, c'est Freud, c'est Jung, et les pieds nickelés en même temps, c'est à peu près l'univers de la télé. La vie dans ces entreprises, c'est à la fois passionnant parce que c'est un métier exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est ce pouvoir de faire. Mais en même temps, ça suppose tous les jours, rentrer chez soi avec des coups, avec des traces de coups, avec des blessures. Il faut l'accepter.
Alors, tout le monde part, tout le monde, enfin, beaucoup de personnes de l'entourage immédiat ouvrent une enquête. La police, évidemment, ouvre une enquête, mais ce n'est pas celle qu'on va suivre. C'est pas un roman policier. C'est plutôt un roman psychosociologique. Et cette Martha, qui va s'en prendre plein la figure, est un personnage quand même très, très fort, ambitieuse, et qui décide d'accepter ce poste, encore qu'on comprend très vite que le président, lui, est moyennement...
Ben, il ne croit pas.
Il un homme par défaut, un peu.
Hein. Oui, c'est ça. En fait, le Buscaron meurt. Ils sont en période de renégociation des espaces publicitaires. Alors, il faut savoir que la télévision a des rites. Il y a des périodes, il y a des saisons. La présentation de la grille, qui arrive en septembre, est un moment non seulement important pour les téléspectateurs, mais aussi... très important pour l'entreprise, parce que c'est le moment où on va vendre aux annonceurs publicitaires les écrans publicitaires. Et donc, Buscaron meurt au début de l'été, c'est-à-dire à un moment où il faut construire la grille qui va assurer la rentabilité de l'entreprise à partir de septembre. Donc, il ne faut pas donner le sentiment qu'il va y avoir une carence de direction. Donc, il nomme à la hâte le bras droit de Charles Buscaron, qui est une jeune femme cultivée, une normalienne, littéraire... qui s'enthousiasme pour cette responsabilité. Le président la nomme par défaut, en se posant la question immédiatement de savoir si il ne faut pas trouver quelqu'un d'autre. Et elle part occuper ses fonctions avec beaucoup de naïveté. Elle va se rendre compte que ce monde est beaucoup plus cruel que tout ce qu'elle pouvait supposer.
Donc je parlais tout à l'heure de son amant qui lui conseille de réfléchir. Alors lui, il est patron d'un grand groupe de presse. Et il connaît bien, lui, les arcanes de la télévision et la difficulté et la cruauté de ce métier.
Oui, c'est pour ça qu'il lui dit... si vous voulez, enfin, moi, ce que j'ai cherché à faire, j'ai cherché à écrire un livre, autant que j'ai pu le faire, qui soit une réflexion sur les choix de vie. Il m'est arrivé tellement souvent de rentrer le soir en me disant « Est-ce que ça vaut la peine ?» Est-ce que ça vaut la peine de se faire déchiqueter comme ça? Est-ce que ça vaut la peine de rentrer le soir et de se mettre en boule sous sa couette en ayant l'impression d'avoir été roué de coups toute la journée, en perdant toutes les perceptions, les odeurs, la vue, la relation avec les autres, parce qu'on est tellement absorbé par la violence professionnelle qu'on n'existe plus pour autre chose. Et donc, est-ce que ça vaut la peine, finalement, de passer sa vie à se faire rouer de coups? Et j'en ai donné aussi quelques-uns. Est-ce qu'il ne faut pas choisir autre chose? Et donc, ce qui se passe entre Martha et son amant secret, pas clandestin ni légitime, simplement secret, discret, c'est que lui est plus âgé qu'elle et il a envie d'atterrir, quoi. Il en a marre, il sait que ces métiers-là sont des métiers de chien. Il en a profité, mais il sait aussi que ça mène nulle part et donc il a envie d'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive, elle lui dit « Voilà, mais moi, je deviens patronne des programmes d'un grand groupe. » Et ils ont l'impression, un peu comme... Lui a l'impression, un peu comme dans Casablanca, entre Bergman et Bogart qui se croisent sur le tarmac, que lui va partir en avion, et elle va partir en avion, lui va rester. Donc, ils se croisent. Et voilà.
Alors, on fait une parenthèse. Il s'appelle Joseph Dreyer, cet homme dont on parle. Le père de Martha s'appelle Joseph. Le fils de Martha s'appelle Joseph.
C'est un peu court d'imagination.
Qu'est-ce qui s'est passé, là?
J'arrivais plus à trouver le prénom. Non, c'est un hasard. Il y a un moment... C'est curieux, quand on écrit un livre, c'est... D'abord, je ne sais pas où j'allais quand je commençais à écrire. Et je sais que c'est un livre, en même temps, je l'ai su à faire. À la fin, j'ai su que c'est un livre qui a une histoire, si vous me faites l'honneur de le lire. Vous verrez que c'est un livre qui a une structure assez robuste, avec des personnages solides et une structure qui est bien foutue. Et en fait, je n'ai pas construite cette structure. Elle s'est imposée, en fait, dans l'écriture. Et j'avançais un peu comme une voiture dans la nuit. Enfin, voiture, vous ne voyez pas le bout du chemin, vous voyez là où portent les phares. Et il est arrivé un moment où les personnages prennent la main. C'est-à-dire que quand vous avez créé des personnages assez forts et que vous rentrez dans cette phase de dialogue avec eux qui est totalement autiste entre l'écrivain et ses personnages, entre l'auteur et ses personnages, il y a un moment où c'est eux qui vous dictent ce que vous avez à faire, ce que vous allez leur faire dire. Et au début, les trois ne s'appelaient pas Joseph, mais la symétrie, en fait, entre le père de Martha, qui est d'origine hongroise, c'est un Joseph avec un Z, le fils de Martha, qui est un Joseph plus biblique, et puis son amant qui s'appelle Joseph, ces trois hommes ne pouvaient que s'appeler Joseph, parce que ce sont les hommes qu'elle aime. Elle aime Joseph. Et à la fois, c'était une sorte de symétrie que je trouvais très esthétique, très, très belle, très sorte de symbole du monde à part. Et puis, en même temps, c'est vrai que c'était une difficulté d'écriture. Parce que pour ne pas paumer son lecteur en parlant de Joseph, mais en disant attention, il ne s'agit pas du Père, il ne s'agit pas du Fils, ni du Saint-Esprit. Voilà, ça crée un peu différemment, mais on pouvait s'y perdre. Et finalement, je crois qu'on arrive à s'y retrouver. Mais vous verrez pourquoi, finalement, c'est important que... Ils s'appellent tous les trois Joseph, parce que je crois qu'on le comprend à la fin du livre. Alors, si je vous le dis maintenant, vous n'allez pas acheter le livre.
Au milieu de ces enquêtes, finalement, où chacun part sur sa piste, et on reviendra en détail sur le rôle que joue Maxime Labrousse, qui joue un rôle important dans cette enquête, Absolument. Le rôle que joue Martha aussi, chacun de son côté cherche à savoir pourquoi il est mort, a-t-il été assassiné, s'est-il suicidé? Et comme tu disais, on comprend assez vite qu'il a été assassiné, mais pourquoi aurait-il été assassiné? Alors, au milieu de tout ça, et quand Martha arrive à la tête de cette chaîne, on lui explique aussi les difficultés financières de la chaîne. Il faut dire que l'une des raisons qu'aurait pu faire qu'il se soit suicidé... parce qu'on sait que c'est la perte d'audience, c'est la perte de vitesse. Et à un moment, dans tout ça, il y a un personnage qui est son ex-femme, qui s'appelle Marion Clémenti, qui dit... Il s'était rendu compte aussi, et ça c'est très important, je pense, parmi les personnages de la télévision, qu'il s'est rendu compte aussi qu'il n'était plus rien.
Oui, mais on ne se suicide pas pour ça, je ne crois pas. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucun directeur de l'antenne qui s'est suicidé parce que ses audiences s'effondraient. Sinon, ce serait parfois une hécatombe.
Tu peux donner des noms?
Hein? On peut les inviter à se suicider. C'est en effet, c'est le personnage de Buscaron, mais là, je ne peux pas rentrer dans le corps du livre, va être pris de panique. Et il est pris de panique parce que, alors que c'est un homme puissant qui fait la pluie et le beau temps sur une chaîne de télévision, or faire la pluie et le beau temps sur une chaîne de télévision, savoir que c'est gérer plus d'un milliard d'euros à peu près que vous distribuez à discrétion en fonction de vos choix, c'est un pouvoir exubérant. En fait. Je veux dire, il y a derrière ces gens-là une cour. Ce sont des courtisans, des gens qui cherchent à séduire, parce qu'il y a beaucoup, je le disais, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Un animateur a besoin de montrer sa figure, un producteur a besoin de gagner de l'argent, les hommes politiques ont besoin d'être là. Et ce monsieur qui s'appelle le directeur de l'antenne, c'est celui qui décide si ça va se faire ou pas. Donc imaginez la pression qu'il a sur les épaules. Et Buscaron...
Et tu sais de quoi tu parles.
oui, c'est de l'intérieur, je parle. Et Buscaron va, à un moment de sa vie, parce qu'il y a un concours de circonstances particulier, se dire que il a pas fait ce qu'il fallait faire, voilà, et qu'il faut rattraper. Il s'est pas bien comporté, et il faut qu'il rattrape ce qu'il a pas fait, et ça va le pousser à la faute.
Alors, on va revenir un instant sur ce que dit justement Joseph Dreyer, c'est-à-dire l'amant de Martha et patron d'un groupe de presse, qui dit à un moment « L'expérience m'a prouvé, parce qu'on voit apparaître le directeur financier de la chaîne, hein, qui joue un rôle non négligeable dans l'histoire, on le verra à la fin, l'expérience m'a prouvé que quand un directeur financier dirige la stratégie d'un groupe, c'est le début de la fin ».
Oui,
j'aime bien cette phrase.
Oui, non seulement je l'aime bien, moi, mais elle m'obsède parce que C'est ce qu'on appelle le cancer de la financiarisation. Alors c'est un sujet un peu grave. Il est un peu en dehors de mon roman, bien qu'il soit à l'intérieur. En dehors dans le débat, mais à l'intérieur du livre, c'est que le paradoxe aujourd'hui, c'est que les grands groupes en difficulté ont tendance à nommer à leur tête, non pas des créateurs, non pas des bâtisseurs, parce que la création et la construction supposent une prise de risque, mais nommer des gestionnaires qui sont là pour couper des têtes, réduire le volume, faire des économies. Or, c'est le plus sûr moyen de faire crever une boîte. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans le monde de la télévision. C'est le cas aujourd'hui de France Télévisions. Ce n'est pas le président de France Télévisions qui est en cause, ce sont les tutelles politiques, qui exigent que France Télévisions réduise la voilure. Or, c'est le plus sûr moyen pour que les téléspectateurs partent. Alors là, ce n'était pas l'exemple. Je pensais à un groupe privé, puisque j'étais administrateur d'un grand groupe privé de télévision aussi. C'est à partir du moment où on commence à faire des économies qu'on commence à partir en vrille. Et cette phrase, je l'ai entendue dans la bouche de Sarkozy.
Alors,
pour citer mes sources.
Il y a un cercle infernal aussi quand on regarde les audiences le matin. Quand on regarde la gestion, justement, c'est que le volume de la pub baisse pour des raisons conjoncturelles, de stratégie, de crise, etc. Car c'est vrai que dans les grands groupes, les premiers budgets qu'on coupe, c'est les budgets communication, pub, etc., etc. Donc on baisse les budgets de pub. Donc le budget de la chaîne et le budget des émissions baissent. Donc la qualité, normalement, des émissions
baisse.
Donc la qualité des émissions baissant, on revient à une baisse des audiences qui ramène une baisse de la pub.
Et qui fait qu'il faut faire des économies.
C'est le cercle infernal.
Ben, ça s'appelle la financiarisation, c'est le dépérissement. Ce sont les cercles de disparition des entreprises. Et c'est ce qui se passe partout. Voilà. Là, c'est en matière de télévision, c'est quelque chose que j'ai testé, mais j'étais aussi dans le groupe Lagardère pendant quelques années. Et c'est vrai qu'une entreprise qui faisait moins de 12% de profit, ben, il fallait la fermer. Donc voilà.
Alors revenons au livre. Alors justement parce que quand même toutes ces incidences ne sont pas gratuites. Les enquêtes parallèles un peu comme ça se poursuivent. Martha fait la sienne, Maxime Labrousse fait la sienne auprès d'ailleurs de l'ex-femme de Buscaron. Et puis apparaît tout d'un coup...
Manon, hein, ça s'appelle Manon.
Manon. Et puis apparaît tout d'un coup une valise. Un fly case, genre de pilote d'avion, que Buscaron a remis autrefois à l'une de ses collaboratrices. Et à partir de là, évidemment, on imagine bien que cette valise contient des documents, des preuves, des écrits, des confessions, tout ce qu'on peut imaginer. Et à partir de là, toutes les pistes s'ouvrent.
Oui, mais je ne sais pas si je vais le raconter, parce que si je raconte...
Non, pas tout.
Il n'y a plus de livre. Mais c'est vrai que la découverte de cette... Enfin, ce n'est pas la découverte d'une valise. C'est quelque chose que j'ai fait.
C'est la découverte du contenu.
C'est autobiographique, cette affaire-là, parce que... Il n'y a pas de sécurité dans un groupe. Enfin, je veux dire, tout est accessible. Et lorsque vous avez des documents, ce n'est pas forcément des documents compromettants, mais lorsque vous avez des documents un peu délicats, bah, il vaut mieux les placer à l'extérieur. Et donc, Buscaron a une valise dans laquelle il met les dossiers les plus sensibles, qu'il ne laisse pas dans la chaîne et qui sont chez son assistante. Qui n'est pas son bras droit, qui n'est pas Martha, c'est une assistante, c'est une secrétaire particulièrement, en qui il a particulièrement confiance. Et elle va gérer cette valise lourde de secrets.
Et alors, on apprend beaucoup de choses à l'ouverture de la valise, mais effectivement, on va pas tout raconter. Mais il a laissé beaucoup d'écrits, il a laissé des textes, etc. Et alors, cette enquête que mène Maxime Labrousse pour essayer de déterminer la vérité, va l'emmener dans plusieurs coins, et notamment à Marseille. Alors, je connais tes origines. Je pense que ce n'est pas un hasard si tout ça se passe à Marseille.
Ça se passe à Marseille, mais ça se passe aussi à Montauban.
Il y a d'abord les lieux et puis la famille.
À Toulouse et à Albias. Albias, qui est une petite commune pas loin de Montauban. Parce qu'en fait, le principal secret n'est pas un secret. Tout ce qu'on a raconté, on a l'impression que ça se passe dans la télévision, sur les magouilles de la télévision, les grosses affaires d'argent de la télévision. En fait, l'essentiel du livre, c'est un secret de famille. Et ce secret de famille va... Lorsque Martha décide d'enquêter sur la mort de son ami et patron qui s'appelle Buscaron, elle va retrouver dans la mémoire de la mère de Buscaron, qui est une dame d'origine arménienne, très âgée, qui a traversé toutes les horreurs du siècle, puisqu'elle est venue en même temps que ses parents lors du génocide arménien, s'installer à Marseille, puis ensuite à Montauban, avec la guerre d'Espagne et réfugiée, puis ensuite... les méfaits de la division Das Reich et les assassinats sur leur chemin lorsqu'ils sont repartis vers la Normandie, Martha va découvrir des gouffres, des failles qui mènent vers l'enfer, qui sont en fait les secrets de famille qui ont blessé la famille Buscaron et d'Herta Vidian pendant près d'un siècle. Et donc c'est ce cheminement, c'est cette présence, c'est la partie du livre qui m'intéresse le plus, que j'ai le plus aimé écrire. La première partie sur la télévision, je suppose qu'elle peut intéresser le lecteur, parce qu'en effet c'est un monde que je connais bien, mais c'est la partie pour moi qui est la plus banale. Et la partie la plus romanesque, c'est la seconde partie, c'est celle où on part sur les routes de France en quête de ce qui fait qu'une famille se construit et se détruit. Et c'est ce que Buscaron va chercher, lui aussi, à reconstruire, sans y parvenir. Donc c'est essentiellement un livre sur les secrets de famille. C'est bizarre, hein ?
Et une histoire d'amour.
Et une histoire d'amour, une passion. Ouais,
absolument. Alors on va y revenir, mais... On apprend véritablement beaucoup de choses sur le monde de la télévision. Mais par exemple, on voit que... La discussion des contrats, de certains contrats avec certains producteurs, etc., peut être sujet à caution. Et effectivement, on va découvrir, là aussi dans ces documents, que ce cher Buscaron ne s'est peut-être pas toujours très bien conduit.
C'est pas autobiographique, cette partie-là. Je disais tout à l'heure que la télévision publique et privée sont des entreprises qui gèrent des milliards. Mais vraiment, c'est chaque année, il y a des milliards qui sont distribués à des animateurs, à des sociétés de production de fiction, de documentaires, d'animation, etc., etc. Et c'est fait suivant des critères esthétiques. Alors autant on peut imaginer qu'on peut lutter contre la corruption lorsqu'on a des critères objectifs, la construction d'un pont, je veux dire, on peut parfois lutter contre la corruption dans ce secteur-là, parce qu'il y a des commissions, des systèmes de contrôle, des appels d'offres, mais comment on réagit face à la production d'un film de fiction sur l'enthousiasme que peut avoir un directeur d'antenne pour tel film plutôt que tel autre? Ça reste du domaine de l'inexplicable, de la sensibilité. Et ça ne peut être soumis à aucun contrôle financier. Alors après, bien sûr, il y a le fait qu'un film a un prix, qu'il y a des administrateurs, des comptables, des gens qui vont compter le prix du film. Mais le fait de choisir ce film plutôt qu'un autre, ça reste le fait d'un seul homme. Et donc, n'étant soumis à aucun contrôle, si cet homme n'est pas d'une intégrité absolue, s'il peut y avoir en effet des dérapages. Et puis, il y a aussi une autre mécanique, sans rentrer dans les dédales techniques du monde de la production, mais c'est ce que j'évoque aussi dans le roman, ce sont les productions internationales. La production d'une série, ce qu'on appelle les séries, comme il y en a plein à la télévision, nécessite des millions, voire parfois des dizaines de millions d'euros. Et pour arriver à les financer, il faut réunir ces fonds, et ces fonds ne se réunissent pas sur un seul et même territoire. Il y a des accords internationaux entre les chaînes italiennes, les chaînes allemandes, les chaînes américaines, où chacun apporte de l'argent, on négocie ensemble les scénarios, le casting, le réalisateur, et finalement on fait œuvre commune, mais cet argent circule d'un pays à l'autre. d'une banque à l'autre. Et donc, ce sont aussi des véhicules financiers qui ont été employés parfois pour détourner des fonds. Et dans ce livre, je me suis inspiré d'une aventure qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années. J'étais en Italie parce que je travaillais sur une série concernant les brigades internationales. Je voulais faire une série en... Ça remonte à il y a longtemps, en 86, pour le 50e anniversaire de la guerre d'Espagne. Et donc j'avais créé avec des partenaires italiens une société à Rome. Et un soir, j'ai dîné avec un homme visiblement richissime qui m'a proposé une coproduction sur un film dans lequel il y avait Dustin Hoffman, qui devait se passer en France. Il y avait un budget pharaonique et il avait besoin d'un producteur exécutif français. Et donc, il m'a proposé un pourcentage du budget du film, qui était aussi, qui aurait fait rêver plus d'un. Et détail amusant, il fallait retrouver une Ferrari Testarossa dans le film, qui était une voiture de luxe absolument magnifique à l'époque. Et donc, Ferrari donnait au film 4 voitures, et j'en avais une, moi. Voilà. Et donc, je suis parti ce soir-là, riche, avec une Ferrari Testarossa. Et le lendemain, j'ai déjeuné avec un copain qui m'aidait d'ailleurs sur l'affaire des brigades internationales, qui était un jeune avocat qu'on a appelé les juges rouges, parce qu'il luttait contre la mafia, il roulait en petite Fiat 500 mais avec un gilet pare-balles. Et quand je lui ai dit le nom du producteur, il s'est étouffé en me disant « c'est le plus grand trafiquant de drogue, il est interdit de séjour partout en Europe ». Et donc en l'espace de 24 heures, j'ai gardé ma Ferrari virtuel que 24 heures. Et voilà, les grandes coproductions internationales sont des véhicules financiers incroyables. Enfin, ça peut...
On le retrouve un petit peu, ce personnage, d'ailleurs. Il s'appelle Grisostomi, non ?
Grisostomi, oui.
Grisostomi, oui.
Sosten Grisostomi.
Et effectivement, on se rend compte que Buscaron a... peut-être un moment, franchi la ligne jaune.
Oui,
parce que quelqu'un dit dans le livre, je ne sais plus qui le dit, c'est un homme finalement assez vulgaire, brutal, alors que cet homme, alors, c'est ça qui est drôle, c'est que d'abord, il est dans le titre, La vie déplorable, on l'accord de Charles Buscaron. Au début, on est tous prêts à l'apprécier, à l'aimer, cet homme. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, c'est un homme finalement vulgaire, brutal, narcissique, et avec un point d'interrogation, finalement un homme médiocre.
Oui, mais c'est... Moi, je l'aime jusqu'au bout, hein, dans mon livre. Donc, si j'en parle mal, c'est que ça a dû m'échapper, mais... visiblement, je suis parié, mais j'essaie de faire comprendre avec beaucoup de tendresse que c'est dur de survivre à ces trucs-là, que c'est dur de rester droit, que c'est dur de résister à la pression, que c'est dur de résister à la tentation. Et que c'est au moment où il se rend compte qu'il n'a pas su résister qu'il devient le plus fragile et le plus attachant. Et d'ailleurs, il y laisse sa vie dans cette affaire. Et c'est vrai qu'on ne survit à la télévision que si on emploie à la télévision les mêmes armes que celles qu'utilisent les autres. Il n'y a pas de place pour les enfants de cœur.
Alors, j'ai noté, mais ça c'est vraiment une toute petite incidence personnelle, qu'on aime aussi ce métier pour le whisky Lagavulin, 12 ans d'âge, le soir à 19h dans son bureau, et ça je confirme.
Donc j'ai rien à dire là-dessus.
Dis-moi, Marseille, tu vous as dit. Ah, vous n'êtes pas très sympa avec les taxis marseillais d'ailleurs, au passage.
Oh, c'est eux qui ne sont pas très sympas avec les clients, surtout.
Bah oui, mais alors dis donc, qu'est-ce que tu les assassines ? Moi, ils vont devoir arriver la prochaine fois, je te signale.
Oui, non, mais je vais à Marseille avec un faux nom maintenant.
Alors, on se balade.
J'ai des trucs à dire sur les taxis bordelais, oui, aussi, mais j'écrirai un livre plus tard.
Oui, mais attends d'avoir pris celui de ce soir qui va te raccompagner tout à l'heure à l'aéroport.
Parce que le taxi tout à l'heure qui m'a laissé à 400 mètres de l'hôtel, je m'en souviens encore. Hein, avec les valises. Puis il y avait du soleil hier.
Dis-moi, on l'a vu, les turpitudes de la télévision.
Oui.
En fait, c'est une grosse partie. L'histoire d'amour. Le thriller
Et comme tu le disais tout à l'heure, le réel problème, fond, cœur du bouquin, c'est le secret de famille. Il va falloir aller découvrir, mais ça, on vous laisse le découvrir. Si on abandonne un peu le roman pour revenir à tes activités, je disais tout à l'heure que tu étais encore producteur de deux émissions importantes sur France 3. Si on revient sur l'actualité, bon, l'actualité brûlante, là d'hier, l'arrêt des chaînes publiques grecques, comment c'est tu réagis?
C'est un signe qu'il faut prendre très au sérieux, l'extinction de la chaîne grecque. C'est très difficile d'abord de juger à distance la décision d'un gouvernement en étant en France et de porter comme ça un jugement péremptoire sur le bien fondé ou l'erreur qui est faite. A priori, je pense que c'est une erreur, mais avec toute la relativité qui est derrière. Je pense que c'est une erreur parce que malgré tout le mal que je dis du monde de la télévision, dont j'ai fait partie, et tout le mal que je peux penser de moi, je crois, en tout cas, que la télévision publique a un rôle de civilisation. Lorsque vous avez un outil comme ça de communication qui touche tous les soirs plus de 30 millions de personnes en France, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. C'est le vecteur de communication le plus important. C'est celui qui fait le bain idéologique dans lequel on baigne tous les jours, dans lequel on pense, où on puise les arguments, les ressources, etc. Et un pays sans télévision publique, avec les vertus normalement qui doivent être de celles de la télévision publique, je crois que ce pays se prive d'un outil essentiel de cohésion sociale. Et c'est justement dans les périodes de crise, et la Grèce traverse une crise encore plus forte qu'elle ne se manifeste en France, dans les périodes de crise économique, de crise sociale, de crise morale, que la télévision peut être pour un État le plus utile. Je le redis à la condition que la télévision publique fasse son boulot. Alors après, on me dit qu'en Grèce, c'était la télévision la plus corrompue, qu'elle était traversée par des scandales, et qu'ils ont préféré finalement fermer parce que l'argent n'allait pas où il devait aller. C'est ne pas prendre le problème par le bon bout. Il fallait assainir. Et voilà. Et donc, ça me conduit aussi à souligner la fragilité aujourd'hui de la télévision publique française, que je connais bien. Il y a trois lois qui ont mis à bas, en tout cas qui ont fragilisé incroyablement la télévision publique. Alors, la télévision publique, aujourd'hui, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est 7 ou 8 chaînes de télévision. Ça va d'Arte à France O, en passant par France 2, France 3, France 4, France 5. Il y a trois lois qui ont définitivement fragilisé l'édifice. La première, c'est l'arrêt de la publicité. Moi, je me suis battu pendant des années contre l'idéologie Baba, Gaucho, Mielo, contre la publicité. Jamais la publicité, moi, en ce qui me concerne, ne m'a imposé une quelconque programmation. Par contre, les 700 millions de recettes, plus les 800 millions de recettes publicitaires que faisait le groupe France Télévisions, c'était un facteur d'indépendance à l'égard de l'État. Quand tout gagnait. Le financement, pour reprendre les choses dans l'ordre, le financement de la télévision publique a été assuré pendant des années. Moitié pratiquement par la publicité, un peu moins de moitié, disons 40% par la publicité, 60% par la redevance. Or, la redevance n'est pas une subvention. La redevance, c'est ce que paye le citoyen pour que les télévisions publiques existent. Donc c'est de l'argent qui est ciblé, c'est de l'argent propriétaire. Donc la télévision publique, a priori, était indépendante parce qu'elle avait sa réception directe de financement de la part des citoyens téléspectateurs et de notre côté, la publicité. Et en supprimant la moitié des recettes publicitaires, donc plus de 480 millions d'euros, et en les remplaçant par de la subvention, on a finalement mis la télévision publique sous tutelle politique. On a aggravé sa dépendance. Et chose plus grave en ce moment, c'est que l'État n'a plus les moyens de payer 480 millions. Et circonstance encore aggravante, c'est que la loi qui a supprimé la publicité prévoyait que cette publicité, que ces recettes publicitaires soient compensées par une subvention de l'État qui proviendrait d'une taxe qui serait appliquée sur les recettes publicitaires des chaînes privées, d'un côté, et de l'autre côté, sur les recettes des opérateurs de télécommunications. Or, à Bruxelles, la taxe sur la publicité est passée, mais la taxe sur les opérateurs télécoms n'est pas passée. Or, ça fait 5 ans que l'État facture indûment, d'après Bruxelles, 200 millions d'euros sur les opérateurs télécoms pour les donner à France Télévisions. Ça veut dire que ça sera assez rapidement maintenant jugé par le tribunal européen et que l'État va devoir rembourser 1 milliard aux télécoms. C'est-à-dire que tout cet édifice repose sur un gouffre financier. Donc cette loi sur la suppression de la publicité est une loi meurtrière. Entre-temps, les autres médias se sont fragilisés, la presse écrite est fragile, les autres télévisions sont fragiles, les radios sont fragiles, l'édition s'est fragilisée. Donc aujourd'hui, rétablir la publicité dans le service public, c'est un geste politique pratiquement impossible. Parce que quel homme politique, quel dirigeant aura le courage d'affronter l'ensemble des médias pour essayer de récupérer de la pub? C'est un piège, c'est le fameux lacébirement, c'est ça le paradoxe. C'est que c'est Jospin qui a dénoncé le lacébirement. C'était cette façon de tenir un patron de chaîne en l'étouffant en passant par Bercy, en l'étouffant sur son budget. Aujourd'hui, c'est ce qui se produit plus que jamais. La télévision publique est étouffée par Bercy pour des raisons qui sont liées au déficit public. La deuxième loi qui est meurtrière, c'est la nomination du président par le président de la République. Alors, c'est comment vous dire, il ne faut pas le rejeter d'un revers de manche. Le fait que le président de France Télévisions soit nommé par le président de la République, c'est finalement une sorte d'aveu de sincérité. Parce que jadis, c'était le CSA, mais le CSA prenait ses ordres à l'Élysée. Donc finalement, on fait circuit court, quoi. On n'enfume personne et on demande directement... Il y avait peut-être quelque chose de plus malin. En tout cas, le fait que le président de France Télévisions ait été nommé par le président de la République le fragilise. Il y a un soupçon. On ne peut pas penser que cet homme-là va pouvoir être indépendant si, en effet, son patron, c'est le président de la République. Et enfin, la dernière loi, qui est plus technique, c'est la fusion, c'est la création d'un groupe unique. C'est-à-dire qu'on a pris les 7 ou 8 entreprises qui constituaient la flottille de la télévision publique, et on les a rassemblés dans un groupe unique, avec l'incroyable complexité sociale qui allait derrière, parce que tous les accords, tous les problèmes de gestion, on a été obligé de recomposer ça. Ça a pris 4 ans d'arrêt pratiquement. Toutes les conventions collectives ont été remises à plat. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le côté du chantier des RH colossal qui était celui-là, et puis ça a fait perdre à chacune des chaînes sa personnalité, parce que jadis, moi je l'ai vécu, parce que j'étais directeur de l'antenne et programme de France 3, je suis devenu directeur général de France 2, directeur général de France 5. Et chaque fois, j'ai été obligé de faire le caméléon, parce que j'étais bleu quand j'étais France 3, et puis je suis arrivé à France 2, je suis devenu rouge, parce que c'était la couleur de la chaîne, et que les équipes avaient leur histoire... Leur désir, les chaînes avaient des racines, et donc c'était pas à moi à imposer mes visées, c'était d'essayer de comprendre quelle était la culture de la chaîne, et chaque fois je me suis adapté. Aujourd'hui c'est fini, ça n'existe plus comme ça. Vous avez un cerveau et des marques, et des gens en haut qui essaient de répartir sur des marques, des programmes. C'est une imbécilité. C'est comme si les maisons d'édition disparaissaient. Je viens d'un groupe qui est le deuxième groupe mondial en termes d'édition, puisque ce groupe Lagardère, l'intelligence d'Arnaud Nourry chez Lagardère, c'est de faire perdurer les maisons d'édition. C'est que chaque patron est maître chez lui. Enfin, je veux dire, il y a le groupe Lagardère, il y a ses exigences de rentabilité, mais chaque éditeur conserve sa ligne éditoriale. Et c'est ce qui fait la richesse, c'est ce qui fait le... Voilà. Enfin, bref. Ces trois lois sont en train de foutre en l'air le service public. Et au lieu... Et franchement, je commence à pousser des coups de gueule parce que je commence à m'énerver là-dessus. Au lieu de s'attaquer à une réforme de fond Parce que quand on sait qu'on va vers une catastrophe économique comme celle vers laquelle on va, et quand on voit qu'on a un groupe aussi inadapté à la situation de crise de l'État, on s'attaque à une réforme fondamentale. Il y a ce que j'appelle un remembrement à faire. Et au lieu de s'attaquer à ça, eh bien on dit à un patron qui est totalement paumé, à une équipe qui est perdue, on lui dit ben « vous aurez 200 millions de moins cette année parce que vous devez faire des économies ». Et ces 200 millions de moins, ben c'est la fameuse financiarisation. On les prend où ? Ben on va les prendre sur les programmes. Et puis comme on arrivera à un moment donné où les programmes seront tellement désastreux, qu'on ira forcément vers un plan social sur une entreprise aujourd'hui qui a 11 000 salariés, dont on dit qu'il va falloir en enlever 2 ou 3 000. Donc on va allègrement vers la catastrophe.
Je sais pas si c'est allègrement, mais on y va. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le livre, parce qu'il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué du tout, que je trouve tu as bien esquissé, bien croqué, c'est l'animateur qui s'appelle Pierre-Antoine Nallet. Alors lui, c'est vraiment...
On le surnomme Pan.
On le surnomme Pan. Et je dirais, si je ne connaissais pas un tout petit peu ce milieu, c'est une caricature, mais pas tout à fait.
Je sens que tu me lances sur le sujet-là.
Oui.
Non, c'est une synthèse, c'est pas une caricature. c'est une synthèse. C'est vrai, c'est un animateur cocaïné, particulièrement énervé, dont la culture télévisuelle est absolument discutable. Oui, on peut, si on se penche sur la question, on peut reconnaître des gens. Mais ça n'est pas un animateur en particulier, parce qu'il y a chez les animateurs de télévision des gens très honorables, formidables, il y en a d'autres qui le sont moins. Parce que la télévision rend fou, parce que avoir beaucoup d'argent comme ça du jour au lendemain, devoir tous les jours, tous les soirs animer une antenne, on arrive à prendre des produits illicites parce qu'on a les moyens de se les offrir. Donc c'est beaucoup de cocaïne, c'est beaucoup d'excès, c'est beaucoup de folie, et ça conduit à beaucoup de fragilité. Mais c'est pas seulement Jean-Luc Delarue, pour que tout le monde le sache, quoi.
Est-ce que tu as eu affaire à beaucoup de pression du pouvoir à travers des animateurs ?
Non, directement. Il n'y a pas besoin de passer à travers les animateurs. Le pouvoir décroche son téléphone et peut dire à un patron de chaîne. Ça m'est arrivé au début. Quand j'ai été nommé à France 3, j'ai eu la naïveté de penser qu'il fallait que je fasse mon métier librement. Et donc, j'ai arrêté des émissions qui me semblaient être hors d'âge, avoir vieilli, qui embarrassaient France 3. Je pense à l'émission de Chancel qui s'appelait Atelier 376, le divan du pauvre Henri Chapier. J'ai arrêté Miss France parce que je trouvais que c'était indigne du service public, mais j'avais des visions comme ça un peu brutales. J'ai arrêté la classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce que c'était. Mais oui. C'était concours de t-shirts mouillés. J'ai arrêté toutes ces choses-là en vrac. Je suis arrivé et puis avec une espèce d'impétuosité comme ça du nouvel arrivant. Et puis j'étais beaucoup plus jeune. J'ai arrêté tout ça en disant il faut qu'on reconstruise. Et j'ai reçu un coup de fil de la rue de Valois. C'est là que siège le ministre de la Culture. Et qui m'a dit, monsieur, pourquoi vous en prenez en particulier à mes amis ? Et je lui ai dit, monsieur le ministre, j'ai su que c'était vos amis, je ne me serais pas pris à eux. Non, je ne lui ai pas dit ça, je lui ai dit, mais je ne savais pas que c'était vos amis. En plus, j'avais envie de lui dire, je n'avais rien à battre. Et il m'a dit, va passer me voir. Et donc, je suis allé le voir. Et je lui ai expliqué. J'étais très, très, très intimidé. C'était mes premières armes, c'était mes premiers ministres. Et je vais lui expliquer que comment il voulait que je refasse une grille. Parce qu'à l'époque où je suis arrivé à France 3, France 3 était en perte de vitesse. Dans le paysage audiovisuel, c'était une chaîne en train de s'effondrer. On parlait de la vente par appartement. Elle était à 14,5 de part de marché. À l'époque, aujourd'hui, elle est à 9. Mais à l'époque, il n'y avait pas la TNT. Et être à 14% de part de marché quand on a 5000 salariés, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'était... Et donc, je me suis dit, il faut reconstruire tout ça, il faut y aller, quoi. Et donc, première façon de reconstruire, c'était d'arrêter des programmes pour essayer d'en mettre des neufs. Et donc, j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, si je ne coupe pas les barbelés, comment vous voulez que je refasse tout ça ? Je suis très agricole, finalement, dans mes métaphores, entre les remembrements et les barbelés. Et donc, je lui ai parlé pendant une heure, et il a été formidable. Voilà. Et il a été... c'était un ministre de la Culture qui a compris.
C'était lequel ?
Je cherche son nom. Celui qui a la tache sur le front.
Ah, Jacques Toubon.
C'est Toubon. Et
ça de Jean Lecou.
Oui, et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le plus sympa. Et il a été absolument incroyable. Et comme j'étais assez jeune con, et à la fin, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» J'ai dit « Monsieur le ministre, ne me téléphonez plus jamais. » Et il a, je ne sais pas s'il a bien pris, mais en tout cas, il ne m'a plus jamais téléphoné. Et il m'a laissé bosser. Et 2 ans et demi après, la chaîne était à 18% de part de marché, en ayant arrêté les émissions crapuleuses, les émissions faussement intellectuelles, etc. Et en ayant lancé la plus grande collection de documentaires de toute l'histoire de la télévision et de l'Europe, qui s'appelle « Un siècle d'écrivains », qui était 460 heures de programme sur l'écriture. Voilà.
Que dirigeait Bernard Rapp.
Que j'avais fait présenter par Bernard, oui.
Hein ouais. Alors, ça explique ce que tu dis là, et cette politique, évidemment. Ça explique aussi ce qu'on vit actuellement avec l'arrêt de Taratata qui devient une affaire d'État.
C'est ridicule.
L'arrêt de l'émission de Mireille Dumas qui devient une autre affaire d'État. On ne peut pas ne pas arrêter des émissions. On a l'impression que les animateurs ont toujours le sentiment qu'ils sont propriétaires de leur tranche horaire.
C'est le plus difficile. C'est la partie la plus difficile du métier, c'est arrêter une émission. Parce qu'il faut se dire qu'un animateur ou une émission qui est en place depuis des années, c'est un réseau derrière. C'est une métaphore qui me vient, mais je ne la citerai pas. Mais il se constitue un réseau derrière une émission. Parce que l'animateur invite des gens qui deviennent amis, supporters de cette émission, etc. Et qui n'ont rien à voir avec le public. Hein. C'est simplement un réseau d'influence. Et lorsque vous dites, je vois par exemple l'arrêt de l'émission de Madame Lombroso parce que son mari c'est Monsieur Guebali et que Monsieur Guebali a organisé le concert de François Hollande lors de son élection, il est évident que ça a suscité une très forte émotion lorsqu'on a arrêté son émission. Et donc il faut avoir le courage d'arrêter, il faut avoir le courage d'affronter ces cabales, il faut avoir le courage d'affronter ces hommes politiques qui peuvent vous dire des choses désagréables, la menace qui pèse sur votre... sur l'exercice, votre métier, sur votre avenir. Sinon, on n'arrive pas à faire une télévision nouvelle. Voilà. Et vous ne pouvez faire ce boulot que si votre patron, que si le président de la télévision, le président de la chaîne, est robuste. Si vous avez, dans mon livre, je prends le cas d'un président qui est lâche, qui prend ses ordres ailleurs, donc la situation n'est pas tenable pour la pauvre Martha. Qui prend des décisions courageuses pour l'entreprise, mais qui se fait tirer les oreilles par son président, parce que lui-même s'est fait tirer les oreilles par le ministre de service. Donc voilà, c'est une bataille d'influence. La décision artistique est soumise après à toutes sortes de contraintes, et arriver à construire une grille de programme, c'est parfois le fruit d'une capacité diplomatique hors du commun.
Est-ce que tu reprendrais des responsabilités à la tête d'une chaîne de télévision ?
Non, j'ai trop vieux.
Pardon ?
Non. Non,
je ne te veux pas de mal, hein ?
Non, plus aujourd'hui. Non, c'est non. Objectivement, non. Je dis que je suis trop vieux. En plus, je le dis, je pense. C'est un métier de chien. Enfin, c'est un métier de chien. Voilà. Et y a un moment, mais c'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre, il y a un moment dans la vie où on se dit, est-ce que ça vaut la peine ? Et je suis content de l'avoir fait, je l'ai fait pendant 10 ans, je me suis cogné les trucs les plus durs pendant 10 ans, et aujourd'hui, l'écriture me va très bien, produire des émissions de qualité, ça me va très bien si on m'en empêche pas, si on m'emmerde pas. Revenir aujourd'hui dans la marmite du diable a plus forte raison. Dans la situation économique dans laquelle tout ça se trouve aujourd'hui, il va falloir des héros. Et puis il faut surtout un gouvernement qui ait une vision lucide de la télévision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai voté François Hollande, pour que les choses soient claires. Et donc je ne suis pas content parce que ces entreprises-là ont besoin qu'on s'en préoccupe autant qu'on se préoccupe de l'éducation nationale, parce que les enjeux sont majeurs. Voilà. Il y va... Parce que derrière la télé, derrière tous les trucs, c'est tous des cons, machin... Des émissions, on ne peut plus rien regarder, on ne peut plus rien voir. C'est pas vrai. il y a toute l'information. Il y va aussi du pluralisme des opinions. Il y va du débat politique. Il y va du financement du cinéma national. Il y va de la vie des théâtres, parce qu'on finance des théâtres, parce qu'on soutient des comédiens, parce qu'on soutient l'écriture, on achète des droits de livres. Les 3 milliards de France Télévisions, c'est de l'argent qui retourne vers le secteur. Alors, on parle des 11 000 salariés. Je calculais ce matin dans mon lit, tôt, que pour... si on faisait un plan social de 1 000 à 2 000 salariés, on arriverait à récupérer 50 millions, entre 50 et 70 millions d'euros. C'est rien. C'est l'assassinat de 2 000 familles pour rien, sur 3 milliards. La vraie question, c'est la réorganisation de l'entreprise. Enfin bref, c'est une digression que je fais. Donc à cette question de « est-ce qu'aujourd'hui je reprendrai du service ?» Non. J'ai donné. Je souhaiterais maintenant que le gouvernement fasse son boulot, propose une réforme. Une fois que la réforme sera en place, qu'on donne à une équipe les moyens d'agir, qu'on la soutienne, qu'on l'accompagne. La France a besoin d'une grande télévision publique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un phare pour les autres télévisions. Quand vous avez une télévision publique qui est de qualité et qui tire vers le haut, les autres sont obligés de suivre. Lorsque vous avez une télévision publique qui s'abaisse, les autres vont dans le même sens. Donc si demain il n'y avait plus de télévision publique, il n'y aurait simplement plus de télévision, il n'y aurait plus de fiction française, il n'y aurait plus rien en France. Mais je le soutiens.
Donc maintenant que tu as goûté à l'écriture, tu vas te consacrer pour une part, parce que tu restes quand même producteur et on espère créer d'autres émissions, mais donc te consacrer en partie à l'écriture.
L'écriture, c'est par rapport à tout ce que j'ai décrit sur le monde de la télévision. L'écriture, c'est le moment vraiment le plus incroyable, le plus paisible. Que j'ai pu traverser jusqu'à présent, et si je trouve un éditeur chaque fois, oui, je continuerai à écrire. Le difficile, c'est de trouver un éditeur, de trouver des lecteurs, s'il vous plaît.
Un scénario, cinéma, la télévision?
Non. C'est un scénario, c'est la chose la plus frustrante au monde. J'ai travaillé sur des scénarios. J'étais ce qu'on appelle un script doctor. C'est-à-dire que j'étais l'homme qui venait redresser des scénarios pendant quelques années avec ma copine Françoise Verny, qu'on appelait l'ogresse de l'édition. Et c'est très frustrant. Un scénario, c'est très frustrant. Parce qu'entre ce que vous écrivez, ce que va en faire le réalisateur, ce que vont en faire les comédiens, ce que va en faire la chaîne, etc., c'est comme faire un enfant et puis le déposer à la DAS, quoi, et revenir 15 ans après. Un livre, vous êtes tout seul avec lui, et puis c'est bon, c'est pas bon, mais c'est vous. Un scénario, c'est un travail collectif. J'en ai soupé des travaux collectifs, voilà.
et le prochain roman est déjà...
Mesdames des maisons d'édition, ça s'appelle La Gazelle Rouge et c'est en cours de fabrication. Ouais.
La Gazelle Rouge,
ouais.
C'est dans quel domaine?
Oula. Ça parlera de la Provence, ouais. C'est le seul endroit que je connaisse bien. Ouais.
Ah bon.
Ça s'appelle la gazelle rouge parce que les gazelles rouges ont disparu en 1976 de l'Algérie. Et elles étaient chassées d'une manière particulièrement cruelle. On ne les abattait pas au fusil, ce qui n'est déjà pas particulièrement délicat. Mais elles étaient poursuivies en voiture jusqu'à ce que leur cœur éclate. Et la dernière est morte en 1976. Et voilà, et mon histoire démarre en 1976. Elle s'appelle la gazelle rouge. Mais je n'ai pas écrit ni elle est dans la tête pour le moment. Bon. C'est gentil, j'ai déjà une lectrice. Yes. Oui, je vous rappellerai quand ça sort.
Donc, mais cela dit, diriger une chaîne, c'est déjà un parcours du combattant.
Ouais.
On court aussi très très vite et longtemps. Merci Jean-Pierre. Donc je recommande la lecture de ce livre pour en savoir un peu plus sur les coulisses de la télévision, vivre une jolie histoire d'amour, les turpitudes de la télévision, un peu d'histoire à travers le passé historique de quelques pays, Hongrie, Roumanie, Arménie, etc. Donc voilà, la vie déplorable de Charles Buscaron, qui n'est pas aussi exceptionnel que l'on le pense au départ, bien qu'en dise son auteur lui-même.
Merci.
Merci.